Bah donc, comme vient de le dire Alexandre, je vais donc vous parler de l'Anthropocène et du fait que effectivement, il y a un an, quasiment exactement, l'Anthropocène a été rejeté par la communauté des géologues. C'est pour ça que j'ai intitulé donc cette conférence "L'Anthropocène n'existe pas". Alors, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais donc, il y a en mars, donc c'était il y a un tout petit peu plus d'un an, en mars 2024, on a pu voir ce genre de titre dans les journaux, et donc là ici dans Nature, dans le journal Nature, qui expliquait que les géologues rejetaient l'Anthropocène et qui précisaient donc ici par exemple que il y avait quand même, c'était quand même le résultat d'une longue procédure, puisque ça fait 15 ans que les géologues débattent de cette question, et donc finalement ils ont décidé de rejeter cette notion d'anthropocène. Alors, on va voir en fait plus précisément qu'est-ce qu'ils ont rejeté exactement et pour quelles raisons. Et puis donc évidemment, ça implique de se demander quand même un peu plus précisément d'abord qu'est-ce que c'est que l'anthropocène, de quelle façon les géologues le concevaient, quel mot ils mettent, quel sens plutôt ils mettent derrière ce mot d'anthropocène, et est-ce que c'est vraiment la même chose que l'anthropocène tel qu'on en entend parler dans les journaux et dans le grand public. Et en fait, finalement, quel anthropocène ont rejeté les géologues par rapport, on va le voir, aux différents sens qu'on donne à ce mot. Donc, j'ai découpé ça en plusieurs parties, évidemment. Assez classiquement, j'ai fait ça en trois parties, parce qu'on ne se refait pas. Alors, l'Anthropocène, pour revenir sur ce que c'est une idée qui date de l'année 2000, donc au début du nouveau siècle. C'est une idée qui a été proposée par un scientifique, mais qui n'était pas un géologue, qui était un prix Nobel de chimie et un cosmochimiste. Il s'appelait donc Paul Crutzen, qui est mort il y a quelques années, et qui proposait que on devrait rajouter une division dans l'échelle des temps géologiques pour tenir compte, pour représenter la période de temps géologique actuelle qui est marquée par l'activité humaine et par l'influence des activités humaines sur tout l'environnement, sur la surface de la Terre, avec l'idée que cette activité humaine est devenue tellement intense, tellement marquée, qu'elle laisse des traces, et que finalement l'être humain, les populations humaines, les activités humaines deviennent un acteur géologique, deviennent tellement intense, tellement répandu, tellement omniprésent, que ça a des effets des effets durables et des effets sensibles sur l'enveloppe terrestre, sur les enveloppes superficielles de la Terre, et que donc l'être humain devient un acteur géologique. Donc, il a proposé ça avec un autre collègue, un biologiste, Eugène Sturmer. Donc, le premier article qui parle d'Anthropocène officiellement, c'est Crutzen et Sturmer. Et puis ensuite, Paul Crutzen a approfondi cette idée dans un autre article dans Nature, 2 ans plus tard. Et alors, dès le départ, en fait, il a quand même admis, il a quand même signalé que ce qu'il proposait, il n'était pas totalement original de ce point de vue-là. Il reprenait, il réactualisait une proposition qui avait déjà été faite au XIXe siècle par notamment cet Italien, Antonio Stoppani, donc une personne qui était qui avait plusieurs casquettes, comme souvent à l'époque. C'était à la fois un religieux, un paléontologue, un géologue et un botaniste, hein, c'est un peu à la façon de Gregor Mendel en biologie, qui lui aussi avait proposé de tenir compte des activités humaines. Alors, vous voyez, pourtant, on était seulement au 19e siècle, alors c'était le tout début de la révolution industrielle, c'était bien avant, finalement, que l'être humain ait vraiment une influence aussi majeure qu'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, cet Italien avait proposé qu'on pourrait appeler l'époque actuelle des temps géologiques, l'anthropozoïque. Alors lui, il était encore plus ambitieux que Crutzen, puisqu'il disait qu'on pourrait en faire carrément une nouvelle ère géologique, Donc après l'archéen, le protérozoïque, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque, on mettrait l'anthropozoïque, l'ère de l'homme. Et Crutzen, lui, a été un petit peu plus modeste en proposant simplement de ne pas rajouter une nouvelle ère géologique, mais simplement ce qu'on va appeler une nouvelle époque, donc une subdivision en dessous, un peu plus bas dans les différents niveaux de l'échelle des temps géologiques. Et c'est pour ça qu'il a proposé ce terme d'anthropocène, forgé, enfin conçu sur le même principe que l'holocène, le pléistocène, etc. Donc avec la même racine scène qui indique l'époque, et donc anthropos pour l'aspect humain. Et donc l'idée, ce serait de rajouter une nouvelle époque géologique au sein du quaternaire, donc de l'ère actuelle, qui viendrait donc après l'ère dans laquelle on est officiellement aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire les temps récents, les temps les plus récents. Holos, c'est tout à fait récent, c'est tout à fait, et scène, c'est donc récent, donc l'Holocène, c'est la période tout à fait récente, c'est la période actuelle. Donc l'idée, ce serait de rajouter un niveau après cet Holocène. Alors cette idée de l'anthropocène, elle a fait florès à partir de cette première publication de Crutzen et Stirner, puis de la publication de Crutzen en 2002. Et vous avez ici, tout simplement, donc sur les outils bibliographiques de Web of Science, vous avez le nombre de publications qui ont parlé de l'anthropocène, ou qui portent sur l'anthropocène depuis l'année 2000. Et vous voyez que ce nombre a explosé, avec également quelques moments clés qui ont sont rajoutés ici, donc et notamment la mise en place par les stratigraphes, par les géologues, d'un groupe de travail dont je vais reparler, dont la mission était justement de discuter de cette possibilité ou pas de rajouter un niveau de l'échelle des temps géologiques et de définir précisément cet anthropocène du point de vue géologique. Alors vous voyez que on remarque aussi sur ce graphique avec les éléments que j'ai rajoutés que ça a intéressé au-delà des seuls géologues, puisque ça a aussi été un concept qui a été utilisé, qui a été récupéré par d'autres disciplines, d'autres personnes, d'autres types de recherches, puisque ça a même été vulgarisé ou diffusé dans des journaux économiques, on dit économistes. Et puis, du point de vue des scientifiques, ça a été également popularisé dans des journaux plutôt axés sur la biologie au sens large, comme notamment les Philosophical Transactions of the Royal Society, un des grands journaux britanniques de sciences biologiques. Et ça a donc également aussi, vous voyez, à partir des années 2013-2014, ça a donné naissance à des publications spécifiquement dédiées à ce sujet, des journaux dont l'objectif est spécifiquement de publier des articles qui concernent cette influence de l'homme sur l'environnement. Et donc ça a continué à monter. Alors vous voyez que ça atteint une sorte de plateau dans les années 2020. Alors évidemment là, le dernier point est nettement plus bas, tout simplement parce que l'année 2025 est loin d'être finie. Mais donc il semblerait que maintenant on ait une sorte de vitesse de croisière, en tout cas qu'on ait un stade un peu plus stable, où le nombre de publications concernant l'anthropocène est devenu assez constant. Mais quand on regarde toujours sur ces outils bibliographiques, quand on regarde les disciplines qui sont concernées par ces articles, alors là, évidemment, vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez que toutes les cases, enfin chaque case colorée, c'est un type de discipline dans lequel est référencé un article portant sur l'anthropocène. Et quand on regarde d'un peu plus près, ben on trouve des choses qui sont effectivement, enfin on trouve des disciplines qui sont loin d'être que de la géologie. Vous avez de la géographie physique, de la géographie tout court, de la biologie évolutive, des sciences de la soutenabilité, des sciences de la technologie de la soutenabilité, de la théorie littéraire, de la littérature, de la biologie des écosystèmes dulsacuicoles, des écosystèmes d'eau douce, de la religion. Bref, vous avez tout un tas de domaines différents dans lesquels le mot anthropocène est apparu, dans lesquels des articles portant sur l'anthropocène ont été catalogués. Alors évidemment, ces différentes disciplines, il peut y avoir un même article qui a été référencé dans plusieurs de ces disciplines. Évidemment, c'est pas à chaque fois un article dans une seule discipline, mais vous voyez que les articles qui ont été publiés sur les articles ou les livres d'ailleurs, enfin, tous les ouvrages qui ont été référencés qui portent sur l'anthropocène, sont catalogués dans des disciplines qui sont vraiment très très variées. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que ce concept, il a vraiment été adopté, il a été pris en considération et développé par tout un tas de domaines. Et ça justement, ça a été assez vite reconnu, et donc justement ce groupe de travail sur l'anthropocène, ce groupe de mis en place par les géologues pour parler de l'anthropocène, il a tout de suite remarqué aussi ça, hein, puisqu'ils ont écrit que l'anthropocène s'est développé, a développé toute une gamme de significations dans des communautés universitaires très différentes. Et justement, ça va devenir un problème, finalement. C'est-à-dire que finalement, sous le terme d'anthropocène, on met plein de choses. Alors ça, on peut le trouver également en librairie, hein, quand vous regardez les livres qui parlent d'écologie, qui parlent de sciences de la nature ou de même d'économie, bah vous pouvez trouver différents ouvrages en français ou en anglais qui portent le nom d'anthropocène ou qui traitent de l'anthropocène. Donc vous avez des ouvrages de vulgarisation grand public, vous avez là il y a la même chose en anglais et vous avez par exemple l'IGN qui a par exemple publié un atlas. C'est la deuxième édition d'ailleurs, un atlas de l'anthropocène, donc avec les cartes, toute une série de cartes qui documentent les influences de l'homme sur l'environnement. Et puis vous avez même un film qui s'appelle l'anthropocène, documentaire. Donc ça a vraiment été médiatisé par plein de manières différentes depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc c'est devenu un terme qui est régulièrement employé, que l'on retrouve souvent. Que finalement tout le monde a entendu, ou presque, à un moment ou à un autre. Et donc, pour Paul Crutzen, initialement, l'idée, c'était donc d'en faire une nouvelle période géologique, avec l'argument que, pour lui, pour Paul Crutzen, les activités humaines sont devenues tellement dominantes, tellement importantes, qu'elles vont laisser des traces dans l'enregistrement géologique, et donc normalement on devrait pouvoir les retrouver, enfin les géologues futurs devraient pouvoir retrouver les traces de des activités humaines et délimiter les couches sédimentaires dans lesquelles l'homme a été présent, a été actif, et par conséquent aussi que à moins qu'il y ait une catastrophe globale, comme il l'écrivait, donc à moins qu'une nouvelle catastrophe globale arrive, un impact de météorites, une guerre nucléaire, une grande pandémie, les activités humaines vont rester une force environnementale majeure pour, pensait-il en 2002, plusieurs millénaires. Alors, c'est cette idée de faire donc une nouvelle division de l'échelle des temps géologiques, elle a donc été envisagée. Elle a tout de suite, on s'est dit que c'était peut-être quand même un petit peu ambitieux, ou c'était peut-être un peu prétentieux de penser que l'être humain allait vraiment avoir des effets si importants que ça, qu'on puisse les retrouver dans le futur dans le registre sédimentaire et fossile. Et ça veut dire aussi que si on en fait une nouvelle période de cet anthropocène, ça veut dire que l'anthropocène, ce serait l'équivalent du pliocène, du crétacé supérieur, donc l'équivalent de d'autres portions de l'échelle des temps géologiques, qui pour certaines sont beaucoup plus longues. Le crétacé supérieur, c'est 34 millions d'années à lui tout seul. Alors, par contre, évidemment, le pliocène, c'est seulement un peu plus de 2,5 millions d'années. Et puis ça veut dire aussi que ça a fait tiquer un peu certains géologues de se dire oui mais alors si on rajoute l'anthropocène, ça veut dire qu'on considère que l'Holocène s'arrête avant, donc l'Holocène qui n'est déjà pas bien gros va devenir encore plus petit. l'Holocène, ce serait à ce moment-là simplement à peu près 11 000 ans. Ça devient vraiment juste une toute petite ligne sur l'échelle des temps géologiques. Le problème surtout, c'est que définir une nouvelle période géologique pour les stratigraphes, pour les géochronologues, c'est-à-dire pour les géologues qui sont vraiment spécialisés dans cette question de définir l'échelle des temps géologiques, ça demande de passer par une procédure précise et de trouver un indicateur fiable et pérenne qui permettra de marquer, de savoir précisément où commence l'influence humaine, où commence cet anthropocène. Donc, c'est pour ça que ce sont les stratigraphes qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui ont donc voulu voir si effectivement on pouvait définir l'anthropocène en restant, en continuant à utiliser les procédures qui ont été mises en place depuis plus d'un siècle et demi, quand on a commencé à définir cette fameuse échelle des temps géologiques. Et l'un des premiers à avoir proposé de faire ça, c'est ce scientifique dont on n'a pas beaucoup entendu parler, enfin qui est connu principalement par les paléontologues et les sédimentologues, mais pas beaucoup en dehors de ça. C'est, comme vous voyez, c'est un contemporain de Lamarck, de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire, d'autres grands scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, qui s'appelait donc Alcide d'Orbigny. C'était un sédimentologue, un paléontologue, même si le terme commençait tout juste à apparaître. Donc, alors, on considère que c'est un peu lui le fondateur de la paléontologie. Et comme il regardait les fossiles, il regardait aussi les sédiments qui les contenaient, et il a été le premier à proposer de découper les terrains sédimentaires, les affleurements sédimentaires, en fonction des fossiles qu'ils contenaient, et de les découper donc en blocs successifs qu'il a appelés des étages. Donc un étage, c'est une tranche, une épaisseur sédimentaire qui correspond à une certaine durée, qui correspond à un certain moment des temps géologiques. C'est la traduction concrète, c'est l'expression concrète d'un certain intervalle de temps sur le terrain. Alors, c'est l'enregistrement réel de cet intervalle de temps que l'on peut retrouver sur le terrain. Et cet intervalle concret, d'Orbigny a proposé d'en avoir une image réelle, une image vraiment substantielle, repérée sur le terrain, donc un endroit dans le monde où on a un affleurement qui est bien délimité, bien défini, bien analysé, et qui va servir de représentant de cette période de temps. Et c'est ce que d'Orbigny a proposé d'appeler un stratotype. Le stratotype, c'est donc l'affleurement qui sert de référence pour définir l'étage. Et donc, d'Orbigny avait commencé à faire ça en France, et il a défini toute une série de stratotypes et les étages correspondants, et aujourd'hui encore, il y a 9 de ces étages définis par Alcide d'Orbigny qui sont toujours valables. Ils sont toujours considérés comme étant bien représentés par le stratotype que d'Orbigny avait choisi et qui sont donc toujours, qui font toujours partie de l'échelle des temps géologiques, de l'échelle stratigraphique internationale. Alors, cette idée de trouver des stratotypes et de définir des étages, elle a été donc pérennisée, elle a été conservée, elle a été améliorée, et dans les années 1800, dès après d'Orbigny, en fait, on a assez rapidement généralisé cette idée. Et décidé que effectivement il fallait c'était intéressant pour les géologues de construire une échelle stratigraphique internationale, une échelle stratigraphique qui soit valable pour tous les géologues, qui soit acceptée par tous les géologues et qui sert vraiment de cadre général pour tous les travaux de géologie. Donc ça a été fait, vous voyez, en 1878 lors d'un premier congrès international de géologie, et c'est un siècle après, en gros, petit peu moins que cette construction est devenue institutionnalisée à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et chapeautée par une institution qui est la Commission internationale de stratigraphie, donc en anglais l'ICS, International Commission of Stratigraphy, qui est donc une instance internationale qui est elle-même dépendante d'une autre institution internationale supérieure, qui est l'Union internationale des sciences géologiques, l'IUGS, donc International Union of Geological Science, qui est donc un organisme international qui est donc l'instance la plus élevée d'organisation de la géologie, qui est basée aux États-Unis, évidemment, qui a été fondée en 1961 et qui est reconnue par 117 pays, donc à part quelques pays qui ne s'intéressent pas du tout à la géologie ou à la science, cette Union internationale des sciences géologiques est reconnue comme l'institution la plus importante des sciences géologiques. Et donc c'est cet ensemble, c'est ce couple de la Commission internationale de stratigraphie et de l'Union internationale des sciences géologiques qui s'occupe de définir l'échelle des temps géologiques et de la modifier progressivement, de l'améliorer progressivement. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment une construction qui a commencé, enfin qui s'est renforcée, qui s'est améliorée à partir des années 1960 et qui continue à travailler. Donc c'est la Commission internationale de stratigraphie qui s'en occupe directement. Et en fait, cette Commission internationale de stratigraphie, elle est elle-même divisée. Elle chapeaute elle-même toute une série de groupes de travail. Chaque groupe de travail étant dévolu à un intervalle de l'échelle des temps géologiques. Donc vous avez eu un groupe de travail pour le paléozoïque, un groupe de travail pour le mésozoïque, etc., etc. Et donc vous en avez un pour il y en a eu un pour l'anthropocène. Et donc l'idée initialement, c'était donc de chercher des stratotypes, de chercher ces affleurements qui étaient chargé de représenter ce qui s'était passé pendant un intervalle de temps géologique et dont l'objectif est de servir de référence aux événements qui ont eu lieu pendant un intervalle de temps géologique. Donc ce que Dorbini avait proposé, c'était de chercher ce qu'on a appelé ensuite des stratotypes d'unité, c'est-à-dire un grand affleurement, toute une série de strates qui enregistre le mieux possible les événements qui ont eu lieu pendant cet intervalle de temps. Donc ça veut dire qu'il faut un affleurement que l'on peut diviser en un grand nombre de strates, en un grand nombre d'événements dans lesquels on voit le maximum d'événements, le maximum d'évolution, de variations possibles. Et évidemment, les principaux indicateurs que l'on va utiliser, ce sont les fossiles. Et donc, on va chercher principalement des affleurements sur lesquels le registre fossile est de très bonne qualité et où on a une très bonne résolution des différentes couches. C'est-à-dire qu'on voit bien les différents événements qui ont eu lieu les uns au-dessus des autres, les uns après les autres. Et donc, par exemple, Dorbini avait défini ce stratotype-là du toarcien à Thouars, sur un affleurement où on voit toute une série d'espèces d'ammonites, donc d'espèces de céphalopodes fossiles, qui sont bien répertoriées. Vous voyez qu'il y en a une douzaine sur quelques mètres d'épaisseur. Et on voit très bien aussi l'apparition d'une première espèce, la disparition d'une dernière espèce. Donc on considère qu'on a un très bon enregistrement de la majeure partie de ce qui s'est passé pendant cette période de temps. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé un stratotype d'unité. Et c'est compliqué à obtenir parce que donc il faut trouver un affleurement qui soit très bien conservé, très bien préservé, qui soit où la sédimentation ait été rapide de façon à ce qu'on ait beaucoup de couches. Et ça veut dire aussi que puisque c'est censé être un affleurement de référence, international, ça veut dire qu'il faut que ce soit accessible. Ça veut dire aussi qu'il faut que ce soit conservé. Si votre affleurement, 20 ans plus tard, il est remplacé par un grand bâtiment et par du béton, ça marche pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que les autorités locales, par exemple, acceptent d'en faire une zone préservée, éventuellement de construire quelque chose au-dessus pour éviter l'érosion, se débrouiller pour que ça reste un endroit qui soit accessible et qui soit préservé. Donc ça veut dire que ça a un certain coût, c'est un endroit qu'un maire ne pourra pas valoriser, par exemple. À moins d'en faire, par exemple, un site touristique. Ça peut être une solution. Ou un site pédagogique. C'est ce qui a été fait justement pour le Toit Arcien. Le Toit Arcien, il a été aménagé pour recevoir des élèves, pour recevoir des classes. Les différentes zones d'ammonites sont repérées par des plaques sur l'affleurement, donc c'est aménagé. Mais on peut pas faire, enfin c'est pas forcément faisable partout. Et donc assez rapidement, les géologues se sont aperçus que ça allait être compliqué de ne faire que des stratotypes d'unités, même s'ils en ont quand même défini beaucoup, rien qu'en France. Vous voyez, là, toutes les étiquettes qui sont portées ici, ce sont les différents stratotypes qui ont été définis en France. Alors, ils ne sont plus tous valables. Certains ont été déclassés, supprimés. Mais vous voyez que on a pas mal utilisé, on a profité du fait que la France est un pays qui est géologiquement très varié. On a des terrains qui vont du précambrien jusqu'à des terrains récents, et donc on a pu définir des stratotypes qui se répartissent un peu sur toute l'échelle des temps géologiques. En tout cas, au moins sur tout le phanérozoïque, sur toute l'échelle des temps fossilifères en France. Un certain nombre d'autres ont été définis en Angleterre et enfin au Royaume-Uni et d'autres encore en Allemagne. Tout ça, tout simplement parce que la géologie et la paléontologie se sont développées d'abord en Europe. D'accord. Donc évidemment, les premiers paléontologues, les premiers stratigraphes, ils ont regardé les terrains de leur pays avant d'aller chercher ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de stratotypes, en tout cas au départ, initialement, qui ont été définis en Europe. Et donc ensuite, certains ont été déclassés justement parce que ailleurs dans le monde, on s'est aperçu que là, il y a un affleurement qui est encore plus précis, encore plus complet que tel affleurement trouvé en France ou en Allemagne. Et donc, on va changer de stratotype. Alors là, ça posait déjà, vous voyez, un premier problème, c'est-à-dire est-ce qu'on change de stratotype et on change le nom aussi, ou bien est-ce qu'on garde le même nom mais on change juste la coupe de référence, d'accord. Et là encore, les géologues, et notamment les stratigraphes, ce qui leur importe, c'est que les choses soient acceptées par tout le monde et que ce soit durable. Les stratigraphes, les sédimentologues, ils travaillent sur des millions d'années, ils veulent que les choses durent. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi souvent décidé de garder le même nom, même si on a changé l'affleurement de référence, pour éviter qu'on s'y retrouve pas entre qu'un nouveau thésard, par exemple, qui veut faire sa bibliographie, s'y retrouve encore quand il prend un papier de 1950 et un papier de 2002. Si les noms ont changé, ça devient compliqué. Donc, autant que possible, on a gardé les mêmes noms. Dans certains cas, on en a changé quand vraiment le nouveau stratotype choisi était vraiment nettement mieux, ou bien quand on a changé de façon de définir les stratotypes, et ça, c'est ce qui s'est fait aussi assez rapidement. Je vais y revenir juste après. Et puis également, ce qu'on a fait à partir du XXe siècle, c'est que non seulement on a découpé les strates sédimentaires en unités allant les unes derrière les autres, les unes au-dessus des autres, mais on a évidemment voulu aussi les dater et ajouter des valeurs chiffrées, des dates chiffrées. Et ça, ça n'a vraiment été possible que lorsqu'on a obtenu des méthodes de datation numérique, et notamment des datations par les méthodes isotopiques, par les méthodes de radiochronologie isotopique. Et l'un des premiers qui a fait ça, c'est ce physicien, Arthur Holmes, qui a aussi été un des pionniers de la tectonique des plaques, et qui a surtout été l'un des premiers les premiers géochimistes, disons, ou physiciens qui se sont intéressés aux isotopes du plomb, à la radiochronologie du plomb. Et donc, il a commencé à proposer des dates. Et dans un article de 1947, il a proposé de dater les bases, les premières couches des différents stratotypes qui avaient été, des différents étages qui avaient déjà été proposés, différentes divisions de l'échelle des temps géologiques qui avaient déjà été proposées. Et c'est la courbe que vous avez ici. Vous voyez, à chaque fois, il avait trouvé, alors il avait réussi à avoir quelques valeurs d'âge avec l'isotope du plomb sur des minéraux trouvés dans les sédiments. Et à partir de ça, il avait calibré les dates des bases des grandes périodes géologiques, des grandes divisions de l'échelle des temps géologiques. Donc l'ordovicien, le silurien, le dévonien, le carbonifère, le permien. Donc, vous voyez, à chaque fois, il tenait compte à la fois de l'épaisseur des sédiments qu'il a essayé d'estimer à l'échelle mondiale, et puis des datations, de quelques points de datation qu'il avait, et ça lui permettait de proposer que la base ici c'est le Cénozoïque là, était à tant de millions d'années. Donc il avait proposé cette première calibration, et vous avez ici en noir la même chose, mais c'est en noir ce qu'il avait proposé. Et vous avez donc en gris ici la même chose recalibrée avec les datations actuelles, les datations plus récentes. Vous voyez que globalement, les temps géologiques, enfin les temps phanérozoïques, les temps fossilifères, sont un peu plus courts que ce qu'avait proposé Arthur Holmes initialement. Alors le début des temps fossilifères, donc le début du Cambrien, est un peu rajeuni par rapport à ce qu'avait proposé Arthur Holmes. Parce qu'on a de plus en plus de datations, on a réussi à calibrer de mieux en mieux cette échelle, cette calibration des temps géologiques. Donc on a continué évidemment ensuite à ce travail d'Arthur Holmes, on l'a amélioré, on l'a raffiné, mais le principe, c'est Holmes qui l'avait proposé. Et donc, à partir du moment où on met des dates, les sédimentologues et les stratigraphes, notamment les stratigraphes anglo-saxons, vont être très chatouilleux sur la distinction entre, d'un côté, ce que l'on voit sur le terrain, les affleurements réels, les affleurements concrets, les strates que l'on voit sur le terrain, que l'on va ordonner les unes par rapport aux autres, replacer les unes par rapport aux autres. Ça, c'est ce qui s'appelle faire de la chronostratigraphie. Et ça donne donc ce qu'on appelle l'échelle chronostratigraphique internationale. Et puis de l'autre côté, ou en parallèle, vous avez les chronologistes, les géochronologues, vous avez ceux qui cherchent vraiment à dater. Et l'idée, c'est que d'un côté, on a des choses concrètes, des sédiments concrets, des roches réelles, et ces roches, elles sont plus ou moins bien préservées au cours du temps, il y a eu de l'érosion, il y a eu des intervalles pendant lesquels il n'y a pas eu de sédimentation. Donc forcément, les roches réelles ne sont qu'un reflet imparfait de ce qui s'est réellement produit. Et de l'autre côté, vous avez le temps qui est un concept intangible, qui est quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. Or, le temps, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité matérielle. Et c'est pour ça que on va distinguer nettement les deux. Vous avez donc d'un côté les strates, la superposition des strates qui fait donc cette échelle chronostratigraphique, et à côté, vous avez la datation qui est une discipline un peu à part, enfin un sous-ensemble à part. Et l'idée de l'échelle des temps géologiques, c'est justement de rassembler ces deux éléments-là, de faire correspondre les strates, l'échelle stratigraphique, avec les datations. Alors cette distinction entre chronostratigraphique et géochronologie, elle va assez loin, puisque pour les puristes, donc pour les stratigraphes vraiment à cheval sur les principes, vous n'allez pas donner les mêmes noms aux divisions de l'échelle chronostratigraphique d'un côté et aux divisions temporelles de l'autre. Donc là, c'est là que je perds la plupart des étudiants, parce que c'est quand même beaucoup de jargon et on se demande un peu si c'est vraiment utile. Normalement, donc, quand vous êtes sur le terrain, quand vous regardez des roches du Turonien, par exemple, ce sont des roches qui appartiennent à l'étage turonien, mais qui datent de l'âge turonien. D'accord? Ces roches de l'étage turonien, elles appartiennent elles-mêmes à une série, donc à un niveau supérieur qu'on appelle la série Crétacée supérieure, qui date donc de l'époque Crétacée supérieure, etc., etc. Donc à l'étage correspond un âge, en termes chronologiques, à la série correspond une époque, au système correspond une période. C'est là que justement on va retrouver l'Anthropocène, puisque l'idée c'est de faire de l'Anthropocène une période géologique. Les systèmes sont eux-mêmes regroupés en ératèmes. Non, pardon, excusez-moi, l'Anthropocène, ce serait une époque, ce niveau-là. Donc les époques sont regroupées dans les périodes, donc le Crétacé supérieur est une époque de la période Crétacée, et sur le terrain, donc les roches Crétacées supérieures appartiennent à la série Crétacée supérieure qui elle-même est incluse dans le système Crétacé. Le système est inclus dans l'ératème et l'ératème dans l'éonotème. Et vous voyez que ces deux termes-là, notamment, très souvent, vous en avez quasiment jamais entendu parler, parce que souvent, notamment en français, on parle plutôt de d'ère et d'éon. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise plutôt les termes chronologiques au lieu des termes stratigraphiques. Il faut bien avouer que même les sédimentologues français le reconnaissent eux-mêmes, eux, ils ont du mal avec ça. Et il y a eu un certain nombre de propositions par des sédimentologues français, pardon, pour dire qu'on pourrait quand même simplifier tout ça et que c'est vraiment s'embêter pour pas grand chose. Mais visiblement, les stratigraphes, notamment anglo-saxons, y tiennent. Et donc, pour l'instant, c'est toujours comme ça que ça marche. Mais de fait, on entend assez peu, sauf vraiment dans les spécialistes de ces domaines-là, on entend quand même assez peu souvent utiliser ces termes-là en français. Et même d'ailleurs, les différences entre système, période, série, époque, c'est pas toujours très très bien respecté par les géologues français. Mais donc, l'idée de construire une échelle des temps géologiques, c'est donc de rassembler l'échelle chronostratigraphique, c'est-à-dire la superposition des différentes divisions des sédiments et des terrains géologiques, donc des divisions qui sont obtenues en regardant le contenu fossilifère, en regardant l'enregistrement des inversions du champ magnétique dans les sédiments. On va donc définir ces différents morceaux de l'échelle, enfin des séries sédimentaires. On va diviser le matériel sédimentaire, le matériel rocheux, en différents morceaux successifs pour obtenir cette échelle chronostratigraphique. D'un autre côté, on va la dater, on va obtenir des dates par les méthodes radiochronologiques ou par d'autres méthodes qui sont utilisées maintenant, comme par exemple l'utilisation des cyclicités astronomiques, des cycles astronomiques de Milankovitch, qui permettent eux aussi de dater les couches, dans certains cas. Et donc, ces dates vont être associées aux divisions sédimentaires, calibrées. Donc on va ajuster finalement les dates aux enregistrements sédimentaires pour obtenir ce qu'on va réellement appeler une échelle des temps géologiques. La Geologic Timescale, la dernière qui a été publiée, date de 2020. Donc ce que je vous ai montré tout au début dans le... Et ce que je crois que je l'ai remis un peu après, mais ce que vous trouvez en fait dans les, je vais pas dire ça, ce que vous trouvez dans le affiché en général dans les salles ou quand vous cherchez échelle stratigraphique internationale, ce que vous trouvez c'est justement l'échelle stratigraphique avec des dates proposées. C'est pas tout à fait l'échelle des temps géologiques. L'échelle des temps géologiques, elle est censée être fixée à peu près tous les 5 ans. Elle est révisée, elle est vraiment publiée. Ce qu'on a plutôt ce qui est révisé régulièrement, c'est plutôt l'échelle chronostratigraphique. C'est plutôt cet aspect-là, qui est donc un choix de définition des étages, des séries. Des systèmes, etc. Et ça, donc, c'est défini par par les différents groupes de la Commission internationale de stratigraphie. Et donc l'échelle des temps géologiques, c'est cette échelle stratigraphique combinée avec les datations. Alors les stratotypes qu'avait proposé de définir d'Orbigny et qui ont été donc utilisés là, encore jusque dans les années 1960. Comme je l'ai dit, c'était ce qu'on appelait des stratotypes d'unité, qui étaient censés être un affleurement qui représentait le mieux possible toute une période, tout un intervalle de temps géologique. Et assez rapidement, les géologues, enfin, surtout quand c'est devenu vraiment international, les géologues se sont dit, c'est quand même vachement compliqué à faire. Ça va être compliqué, justement, à chaque fois de pouvoir préserver ces affleurements. Est-ce qu'il y aurait pas une manière plus simple de procéder? Et la manière plus simple qu'ils ont trouvée, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin de définir un affleurement qui contient tous les sédiments qui sont déposés pendant une période. Ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un affleurement où on voit très bien le passage d'une période à la suivante, le passage d'une division à la suivante, où on a donc un très bon enregistrement de la limite entre deux divisions. D'accord? Et c'est ce qu'on a appelé donc un stratotype de limite. Ce qui est plus simple à obtenir, puisque finalement l'affleurement qui doit représenter cette limite n'a pas besoin d'être très grand. Il faut simplement que quand on l'étudie dans le détail, on voit très bien le passage d'une période à une autre, d'un intervalle à un autre. L'avantage aussi, c'est que cet affleurement qui va être donc assez petit, on va pouvoir l'étudier vraiment à fond. On va pouvoir l'étudier sédimentologiquement, paléontologiquement, géochimiquement. On va pouvoir multiplier les indicateurs qui vont permettre de bien définir cette limite. Donc c'est ce qu'on va appeler un stratotype de limite, et c'est ce qu'on va, une fois qu'on en a trouvé un, une fois qu'on en a choisi un, on va le marquer sur le terrain par une plaque, une plaque ou une sorte de clou qu'on appelle un clou d'or, un golden spike, qui va marquer que voilà, c'est là que se trouve l'affleurement représentatif du passage de telle période, de telle division stratigraphique à telle autre division stratigraphique. Et par définition, enfin par convention également, on a décidé que ce qu'on définit, c'est la base de l'étage qui suit. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez le cas de l'étage géologique dans lequel officiellement nous nous trouvons. Nous sommes actuellement dans le Mégalayen. Le Mégalayen, c'est donc la période, c'est le dernier étage de l'Holocène dans lequel nous nous trouvons toujours aujourd'hui, qui a été défini, enfin dont la base a été définie par un bout de stalactite trouvé dans une cave en Inde, dans une grotte en Inde, pardon, sur lequel, vous voyez, on a des couches successives bien nettes, bien visibles, sur lesquelles on a pu faire de la géochimie, voire de varier des différents indicateurs, et sur lesquels on a pu donc définir que voilà, le début du Mégalayen, c'est là, c'est lorsqu'on a cette fluctuation de, là ça doit être le delta C13, et là ça doit être le, je sais plus quoi d'ailleurs, le delta O18, un autre isotope. Donc là, on a une fluctuation bien nette, et on a décidé que c'était là que commençait le Mégalayen, parce que ça correspond en fait à une fluctuation climatique, à une grosse variation climatique. Donc le Mégalayen, il date officiellement de 4200 ans. Il a commencé il y a 4200 ans, parce qu'il y a 4200 ans, effectivement, il y a eu une assez grosse perturbation climatique à une échelle sans doute plus ou moins mondiale, et qui a été prise comme référence pour dire que c'est là que commence le dernier étage de l'Holocène actuel. 4200 ans, c'est par exemple la période où disparaît l'Empire Akkadien en Mésopotamie. Sans doute justement à cause de ces fluctuations climatiques, ça a sans doute provoqué là-bas des sécheresses sur plusieurs années qui ont provoqué l'effondrement de cet empire. Donc ça a eu apparemment des conséquences pas négligeable, suffisante en tout cas pour qu'on décide qu'on fait commencer le dernier étage du quaternaire à ce moment-là. Donc cette nouvelle approche où on définit juste la base de l'étage qui suit, Ça a commencé, vous voyez, à la fin des années 1970. En 1977 a été défini le premier de ces stratotypes de limites pour la limite silurien-dévonien. Et en fait, c'est surtout justement dans le dévonien qu'on a commencé à placer ces premiers stratotypes de limites. Et aujourd'hui, le travail actuel, pardon, le travail routinier, si on peut dire, de la Commission internationale de stratigraphie, c'est justement de redéfinir tous les anciens stratotypes sous la forme de stratotypes de limite. Donc l'idée, c'est que tous les stratotypes, progressivement, sont remplacés par des stratotypes de limite et par ce fameux GSSP, c'est-à-dire un Global Standard Stratotype Section Endpoint. En français, on appelle ça un point stratotype mondial, un PSM. Là, j'ai gardé le sigle GSSP parce que c'est celui que vous trouvez très largement dans les articles en anglais et dans les figures en anglais. Et puis parce que par habitude aussi, ça me vient plus spontanément que PSM, mais en français, ça s'appelle un point stratotype mondial. Donc l'idée, c'est que au lieu d'avoir des stratotypes d'unités dont on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment contigus les uns derrière les autres et qu'ils représentent vraiment correctement tout le temps qui s'est passé, on ne définit que la limite entre deux étages. Bon. Donc finalement, on définit la base de l'étage C, et l'étage C, il dure jusqu'à la base de l'étage suivant. D'accord ? Même si on n'a pas d'affleurement, même s'il n'y a pas de sédiment qui représente une partie de cet étage, il est défini par sa base, et l'étage suivant est défini par la base qui vient après. D'accord ? Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple, et puis c'est aussi beaucoup plus pratique, puisque là encore, l'affleurement qui va porter cette limite, ce stratotype de limite, ça va être quelques centimètres de sédiment, quelques mètres au maximum. Ça va être beaucoup plus facile de le protéger, de le préserver, d'en faire un site classé, etc. Alors ensuite, vous pouvez faire comme les Chinois, qui ont la limite Permien-Trias chez eux, et qui ont fait un énorme parking devant. Il y a un énorme monument pour dire c'est nous qui avons la limite Permo-Trias. Bon, l'affleurement en question, c'est ça. C'est 10 cm à peu près. Et c'est surtout une couche calcaire. Et au milieu de cette couche calcaire, vous avez, d'après les paléontologues, un conodonte, donc un microfossile qui apparaît en plein milieu de la couche. Et c'est ça qui définit la limite. Et pour tout ça, on fait donc un grand parking. Il y en a qui ont les moyens. En France, si on arrive déjà à ce que le maire local accepte de préserver le site, on est déjà bien content. Bref. Donc on a remplace progressivement tous les étages, tous les stratotypes d'unités par ces stratotypes de limites. Mais on a aussi, pour faire ça, on a toute une procédure qui est compliquée, qui est résumée ici. Vous avez donc des équipes de recherche qui étudient des affleurements qui leur semblent être potentiellement des candidats intéressants pour devenir un stratotype de limite. Donc vous avez des groupes de recherche qui vont proposer à la Commission internationale de stratigraphie un site candidat. Alors en fait, ils vont le proposer à une sous-commission qui s'occupe de cet intervalle chronologique, de cet intervalle de temps. Donc par exemple, la sous-commission pour le quaternaire, ou la sous-commission pour le tertiaire, ou la sous-commission pour le crétacé, etc. Cette sous-commission vote. Les membres de cette sous-commission votent en faveur ou pas de l'affleurement qui leur est proposé, ou bien ils votent en faveur de l'un des affleurements qui leur est proposé. Et s'il y a une majorité pour un affleurement, cet affleurement ce résultat du vote est proposé au bureau de la Commission internationale de stratigraphie, qui vote à son tour pour valider ou pas la proposition qui leur est faite par le niveau en dessous. D'accord ? Et une fois que la Commission internationale de stratigraphie a voté, de nouveau son vote est soumis à l'approbation de l'instance la plus élevée, donc de l'IUGS, de l'Union internationale des sciences géologiques, qui valide ou pas le vote précédent. Et s'il est validé, on va placer sur la flamant choisie le fameux clou d'or, le fameux marqueur, et on va publier la description du site dans un journal qui est quasiment fait que pour ça. Episodes. Et qui compile finalement toutes ces descriptions de stratotypes de limites. Il fait pas tout à fait que ça, il publie pas tout à fait que ça, mais c'est quand même la grosse majorité de ses publications. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, le clou d'or est placé, l'affleurement est publié, et le stratotype est accepté, et il va pouvoir figurer dans l'échelle stratigraphique internationale. Alors c'est pour ça que, alors là, je suis désolé, vous le voyez pas, mais sur cette, parce que c'est caché ici par le titre, mais là il y a marqué 2024-12. C'est la dernière version de cette échelle stratigraphique internationale qui date donc de décembre 2024. Il y a fort à parier que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y aura une nouvelle version qui sera 2024-6 ou 2024-7 parce qu'on aura par exemple rajouté un nouveau clou d'or. D'accord ? Pareil, si vous avez dans vos salles de classe ou dans une bibliothèque, si vous regardez une échelle stratigraphique qui est affichée au mur, il y a de fortes chances que ce soit une version de 2016, 2015, 2020. Eh bien, si vous regardez de près, c'est pas la même. Notamment, il y a des nouvelles dates qui ont été associées, qui ont été proposées. Il y a de nouveaux clous d'or qui ont été placés. Et donc, par conséquent aussi, il peut y avoir de nouvelles divisions qui ont été proposées, de nouveaux noms qui ont été proposés. Et donc, cette version de décembre 2024, elle est toujours pas finie. Puisque, par exemple, ici, vous voyez que là, au début du Cambrien, pardon, vous avez toujours ici, par exemple, trois étages qui n'ont toujours pas de nom officiel, ni de clou d'or, ni de GSSP, ni même de stratotype, d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours indiqués étage 2, étage 3, étage 4. Donc, c'est-à-dire que là, il y a même pas de stratotype d'unité, il n'y a rien du tout. D'accord? Il n'y a aucun endroit du monde qui représente cette période de temps. D'accord? Normalement, s'il y avait un stratotype, ces étages-là devraient avoir un nom qui correspond à la localité du stratotype avec le suffixe yan en anglais ou yan en français. D'accord, le burdigalien, le toarcien, etc., etc. À chaque fois, c'est la localité du stratotype auquel on a ajouté le suffixe yan. Et donc, vous avez toujours des étages ou même carrément des divisions supérieures. Vous voyez, là, vous avez une série qui n'a pas de nom, la série numéro 2 ici du Cambrien. Elle n'a toujours pas de nom. Donc, il y a des divisions qui n'ont toujours pas de nom. Il y en a d'autres. Alors, vous voyez, vous en avez une ici, bon, ouais, là, qui n'est même pas appelée du tout. Là, il y a rien. Rien du tout. C'est même pas indiqué l'étage, quoi que ce soit. C'est rien. Et puis, vous avez également des noms qui vont changer parce que, justement, par exemple, on a trouvé un meilleur stratotype que le précédent et... il est tellement meilleur qu'on a décidé vraiment de carrément changer le nom de l'étage ou le nom de la division. Donc c'est pour ça aussi que vous avez de plus en plus, notamment pour le paléozoïque et également un peu pour le mésozoïque, vous voyez apparaître des noms qui sont des noms d'origine chinoise. Par exemple, vous avez ici le Yu Shangpingya, c'est compliqué à prononcer. Vous avez ici le Zhang Shangnian. Donc là, on voit aussi le développement de la géologie dans d'autres pays que l'Europe, enfin dans d'autres continents que l'Europe, hein, notamment en Chine. Mais vous avez aussi le moscovien, le bashkirien, le sarpoukovien, donc des trucs qui ont été définis en Sibérie ou en Russie. Vous avez l'édiacarien, par exemple, qui a été défini en Australie. Et vous voyez, par exemple, que l'édiacarien, justement, c'est le premier étage défini par un GSSP. C'est la toute dernière division du précambrien, du protérozoïque. Et là, on a encore des sédiments, on a encore des affleurements sur lesquels on a pu définir un clou d'or. Et donc, on a pu définir les diacariens. Les divisions qui sont en dessous du précambrien, là, les stratigraphes ont considéré qu'il n'y avait pas assez d'affleurements bien préservés. Et surtout, il n'y a plus de fossiles. Donc, on peut pas vraiment définir, ou pas bien définir des stratotypes de limites. Et donc, la décision qui a été prise, c'est de définir ces divisions uniquement par des âges. C'est-à-dire que la limite, c'est un âge arbitraire, c'est un chiffre arbitraire de date, c'est une date arbitraire plutôt, qui est définie. Donc, vous voyez, au lieu d'avoir mis des petits clous, on indique ça par des petites horloges pour dire qu'on n'a pas affaire à un GSSP, mais à ce qu'on appelle un GSSA, A pour âge. D'accord? Global Stratotype Sectional Age. Et donc là, l'avantage aussi, c'est que les âges en question, ils sont choisis arbitrairement. Là, si je me souviens bien, dans le protérozoïque, c'est tous les 200 millions d'années. C'est pas compliqué. Et ça, c'est donc lié au fait qu'on n'a pas de, on n'a plus de, d'affleurement bien, bien analysable, bien, bien préservé pour définir ces divisions. Donc cette échelle chronostratigraphique, elle est toujours en cours de fabrication, elle est toujours pas finie. Et pour ce qui concerne l'Anthropocène, pour revenir à l'Anthropocène, eh bien les étages de l'Holocène, donc de la dernière partie du Quaternaire, l'Holocène a été divisé en 3 étages en 2018. En 2018, ont été choisis les 3 divisions de l'Holocène. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Anthropocène pose problème, c'est que ça fait que quelques années qu'on a choisi les divisions de l'Holocène. S'il faut rajouter l'Anthropocène encore, c'est-à-dire que finalement tout ce qui vient d'être fait ne sert à rien. Ou en tout cas, il devrait être revu. Et forcément, vous imaginez bien qu'il y a quelques géologues qui n'ont pas vraiment envie de voir leur travail mis à la poubelle si vite que ça. Donc justement, le Quaternaire, là vous avez un exemple des changements qui ont été faits justement sur ces divisions du Quaternaire entre les années 1980, le début des années 2000 et puis 2020 ici. Et vous voyez que le Quaternaire, alors déjà le début du Quaternaire a changé de définition. Le Quaternaire a été prolongé et actuellement, officiellement, il commence à 2,5 millions d'années. Alors qu'avant, il était défini à partir de 1,8 millions d'années. Le problème, c'est déjà que le Quaternaire, comment est-ce qu'on le définit lui-même? Ça a été aussi tout un débat, puisque au départ, le Quaternaire, enfin au départ, c'est-à-dire à l'époque de Cuvier, de d'Orbigny, et des premiers stratigraphes, le Quaternaire, c'était l'apparition de l'homme. C'était l'âge de l'homme. Et puis progressivement, on s'est aperçu que l'homme, la lignée humaine, en tout cas, les fossiles les plus proches de l'homme, on pouvait en trouver de plus en plus vieux. Donc, où est-ce qu'on commençait? Et donc finalement, là, aujourd'hui, on le met à 2,5 millions d'années, 2,58 millions d'années, qui est à peu près l'apparition des premiers représentants du genre Homo. Si on met Homo habilis dans le genre Homo, on est à peu près dans ces eaux-là. Et puis c'est aussi le moment où commencent les périodes glaciaires. On commence à rentrer dans les cyclicités climatiques glaciaires interglaciaires. On a un refroidissement climatique. Et donc l'homme n'est plus le seul critère pour définir le Quaternaire. Donc on a mis le Quaternaire un peu plus bas qu'auparavant, un peu plus ancien qu'auparavant. On a gardé par contre les divisions en Pléistocène et Holocène, qui dataient de Charles Lyell, qui étaient des propositions faites par Charles Lyell, donc un contemporain de Charles Darwin. C'est lui aussi qui avait défini l'Éocène, le Miocène et le Paléocène, et le Pléistocène, pardon. À l'époque, Charles Lyell avait défini ces différents niveaux en regardant les faunes de mollusques et en constatant que les faunes de mollusques étaient de plus en plus différentes de l'actuel à mesure qu'on s'enfonçait dans les terrains. Donc Paléocène, c'est ce qui était vraiment différent de l'actuel, Miocène, c'est ce qui était un peu moins différent, Pliocène, c'est ce qui était plus proche de l'actuel, et Holocène, c'est ce qui était tout à fait actuel. Et que là encore, c'est aussi intéressant de voir que les noms eux-mêmes, finalement, ne disent pas grand-chose. Finalement, ils n'ont pas une très grande importance. C'est assez purement descriptif. Donc, on a conservé ces divisions. On a aussi décidé, par exemple, aussi que le Quaternaire Et le Pléistocène, justement, bah, c'était la base de ces deux définitions, de ces deux niveaux. C'était la même chose. Initialement, le Quaternaire et le Pléistocène avaient été définis par des gens différents, par des chercheurs différents, et on a décidé que, bah, en fait, c'était, ça commençait au même moment, c'était la même chose. Et puis, on a donc on a divisé le Pléistocène et l'Holocène en morceaux, en étages, en divisions plus fines. Alors pour le Pléistocène, ça a été fait assez facilement, et puis bah, pour l'Holocène, vous voyez que c'est seulement en 2020, enfin 2018 en fait, là donc entre 2012 et 2020 ici, c'est en 2018 que ces trois étages ont été ajoutés à l'Holocène. Donc ça veut dire que là encore, pendant que certains chercheurs divisaient l'Holocène en trois morceaux, bah, vous aviez toujours un groupe de travail qui s'occupait de savoir si oui ou non on pouvait définir l'Anthropocène. Et donc actuellement, on en est là. Actuellement, bah, le Quaternaire, il est divisé en trois morceaux, en trois étages. Et donc ça, oui, c'est une figure qui vient d'un article de 2025 qui indique que l'Anthropocène a été rejeté. Là, si on zoome sur cette figure-là, vous voyez que les divisions de l'Holocène, donc de la dernière période du Quaternaire, donc c'est cette période où le climat est globalement clément, où il n'y a plus de glaciation, climat interglaciaire, mais où il y a quand même quelques événements climatiques qui ont été assez marqués. Donc ici, sur un enregistrement des températures moyennes au cours du temps, et vous avez deux événements climatiques, donc celui de 4200 ans dont j'ai déjà parlé, et puis un autre événement il y a 8200 ans. Et c'est ces deux événements climatiques qui ont servi à définir ces trois divisions de l'Holocène, donc entre le Greenlandien, le Nordgrippien et le Mégalayen. Et donc officiellement, nous sommes dans le Mégalayen. Voilà. Donc l'idée de la proposition de Paul Crutzen, ça aurait été donc de rajouter ici un Anthropocène qui viendrait après l'Holocène et donc après le Mégalayen. Alors justement, qu'est-ce qu'on a fait de cet Anthropocène? Comment est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce que ça a pris 15 ans pour finalement décider de ne pas le définir? Alors comme je vous ai dit, les stratigraphes ont d'abord mis en place un groupe de travail, c'était donc en 2009. En 2009, la Commission internationale de stratigraphie a monté un groupe de chercheurs qui initialement avait 37 membres, 37 personnes, qui ont réfléchi à la définition de cet anthropocène. Sur ces 37 membres, vous aviez des géologues, des paléontologues, mais vous aviez aussi un historien des sciences, une historienne des sciences, deux archéologues et un juriste. Donc c'est déjà un groupe de travail qui était assez bizarre par rapport au précédent, par rapport à tous les autres. Parce que l'Anthropocène, on voyait bien déjà que c'était un sujet qui n'intéressait pas que les géologues. Ça ne concernait pas que les géologues. Et donc également, comme je l'ai indiqué ici, dans le groupe de travail, au départ, avant sa mort, il y avait donc Paul Crutzen, qui donc, comme je vous l'ai dit, était un cosmochimiste, qui n'était pas à proprement parler un géologue ni un stratigraphe. Alors dès le départ, justement, il a fallu du temps pour que ce groupe de travail se mette en place, pour que la Commission internationale de stratigraphie décide de le monter, parce que déjà il y avait des questionnements sur l'intérêt même de définir l'Anthropocène. Alors déjà, il y avait certains géologues et stratigraphes qui étaient un peu réticents parce que la proposition ne venait pas d'un géologue. Là, il y a toujours des gens qui n'écoutent pas ce qui se fait en dehors de leur paroisse. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, le Quaternaire, on était en train d'essayer d'en trouver des divisions. Donc, cette nouvelle proposition, là encore, c'était un travail en plus, finalement. Ça paraissait pour certains un peu redondant avec ce qui se faisait à côté. Et puis, également, une question un peu plus fondamentale, c'était est-ce que l'Anthropocène va vraiment être sensible dans les roches, va vraiment pouvoir s'enregistrer dans les roches, il pourra vraiment se retrouver dans quelques milliers, voire millions d'années. Est-ce que vraiment un sédimentologue de l'an 2 millions pourra retrouver quelque chose dans les sédiments qui lui dira que c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à avoir un impact sur son environnement. Avec aussi la question que est-ce que c'est vraiment faisable de définir une nouvelle époque alors qu'on en fait partie? Donc il y a eu des réticences, et puis la question, quand ces réticences ont été levées, quand finalement le groupe a décidé que ça valait quand même la peine de travailler là-dessus, il a fallu choisir quand est-ce qu'on fait commencer cet anthropocène. Alors Paul Crutzen, justement, avait déjà fait un certain nombre de propositions qui ont été donc examinées. Bah, par exemple, Crutzen, il avait proposé de faire commencer l'anthropocène avec la révolution industrielle en Grande-Bretagne, et notamment, il avait dit, le début, ça pourrait être le dépôt de brevet de James Watt, qui dépose en 1794 le brevet de la machine à vapeur. Alors là, pour le coup, les géologues ont dit, t'es bien gentil, Coco, mais un brevet, ça ne se fossilise pas. Et donc là, un sédimentologue, il aura du mal à retrouver ton brevet. Alors, autre proposition, toujours de Crutzen, de faire commencer ça avec les premiers effets de la révolution industrielle, donc les premières combustions à grande échelle de combustibles fossiles, par exemple. Mais là aussi, alors là, c'est plutôt les historiens qui ont dit « Oui, mais enfin, nous, on a déjà du mal à définir la révolution industrielle. » Même en tant qu'historien, on a déjà du mal à savoir quand est-ce que ça commence, où est-ce que ça commence. Ça commence pas au même moment en Angleterre et en France. On a déjà du mal à définir ce que c'est la révolution industrielle. Alors, d'autres chercheurs ont proposé de repousser le début de l'anthropocène encore plus loin, et c'est là où justement où ça a beaucoup grincé des dents du côté des sédimentologues qui étaient en train de diviser l'Holocène, parce que certains ont dit l'anthropocène, on pourrait le faire commencer il y a 8200 ans, il y a 12 000 ans, donc à avant ce qu'on appelle le Younger Dryas, donc un épisode de froid qui a surtout touché l'hémisphère nord, donc le Dryas récent en français, un épisode de refroidissement climatique sur l'hémisphère nord. Et pourquoi est-ce qu'il a été proposé d'en faire le début de l'Anthropocène? C'est parce qu'une hypothèse est que cet épisode froid pourrait être en partie causé, en partie lié à l'arrivée de l'homme en Amérique et la disparition des grands herbivores d'Amérique. Avec l'idée que, avec cette disparition des grands herbivores, ces herbivores, donc, ce sont des ruminants qui produisent du méthane, et cette disparition de la mégafaune aurait donc eu des conséquences sur les taux de méthane atmosphérique. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant, et donc moins de méthane implique une température plus faible. Donc, alors c'est des hypothèses qui ont déjà quelques années, mais donc il avait été proposé que ce Younger Dryas soit en partie causé par cette disparition de la mégafaune, notamment américaine, et que cette disparition de la mégafaune soit elle-même liée à l'arrivée de l'être humain dans ce continent. Alors on pense aujourd'hui qu'il y a peut-être d'autres, il n'y a pas que ça qui a pu contribuer à ce refroidissement climatique. Le Dryas récent, c'est toujours un épisode qui est assez étudié et pas forcément encore parfaitement compris. C'est sans doute pas que l'arrivée de l'homme en Amérique qui en est responsable. Dans le même genre d'idée, un géologue, enfin un paléoclimatologue, Rudiman, a proposé de faire commencer l'Anthropocène au néolithique, donc là justement vers 8200 ans, en disant que c'est à ce moment-là que le système terrestre, le système climatique terrestre semble s'écarter de ce que prédisent les modèles, puisque les modèles suggéraient que après un intervalle interglaciaire, on devrait revenir dans une nouvelle glaciation. Les modèles climatiques, les modèles astronomiques de cyclicité de l'orbite de la Terre implique que normalement on devrait être dans une période plutôt d'entrée dans une nouvelle glaciation. Or, au contraire, ce qu'on voit dans les enregistrements paléoclimatiques, c'est que le climat est resté doux, le climat est resté non glaciaire depuis à peu près donc 8000 ans, avec des quantités de méthane, là encore, qui sont plus élevées que ce que prévoyait le modèle si tout se passait comme précédemment, comme dans les périodes glaciaires interglaciaires précédentes. Et pour Rudiman, cet écart entre les prédictions et les projections plutôt et la réalité, il l'attribue au développement de la culture du riz. Le riz étant une culture qui est irriguée et qui produit beaucoup de méthane, elle aussi. Donc l'idée, c'est que cette augmentation des taux de méthane et donc cette absence de glaciation serait là encore un résultat indirect des activités humaines avec le développement de la culture du riz à grande échelle. Et donc c'est pour ça qu'il a été proposé, là encore, de mettre l'Anthropocène à partir de ce moment-là, puisque là encore, ce serait donc un impact des activités humaines sur l'environnement. Toujours dans le même ordre d'idée, il avait été proposé de mettre l'Anthropocène, de le faire commencer en 1610, parce qu'en 1610, vous voyez que quand on regarde les quantités de CO2 atmosphérique que l'on trouve dans certaines carottes de glace de l'Antarctique, on a un pic vers le bas, une petite baisse, une baisse assez notable quand même, de CO2 dans ces enregistrements. Et là encore, l'interprétation qui a été donnée, c'est que ce serait le résultat du contact entre ancien et nouveau monde, c'est-à-dire finalement de la colonisation du nouveau monde non seulement par l'homme, mais aussi par tout son bétail et par tous ces microbes venus de l'ancien monde, venus de l'Europe, et que finalement ce contact entre les humains de l'ancien monde et les humains du nouveau monde, ça aurait eu notamment pour effet déjà de faire disparaître un certain nombre de populations d'Amérique qui ont été contaminées notamment par toutes les maladies apportées par les conquistadors. Les conquistadors, Christophe Colomb et les suivants, s'ils ont réussi à coloniser et à vaincre toutes les populations incas, aztèques et tout ça, c'est d'abord parce qu'il y a eu la variole avant eux, et la variole, c'est eux qui l'ont apportée. Donc ça a fait des millions de morts. La variole a fait des millions de morts. Finalement, les conquistadors arrivaient dans des villages où il n'y avait déjà plus personne. Donc ça veut dire aussi que ces populations qui ont disparu, leur bétail a disparu aussi, leur utilisation de l'environnement a disparu aussi, et donc ça aurait pu entraîner une reforestation des terrains précédemment agricoles, et donc un pompage de CO2 lié à cette reforestation. D'où l'idée de mettre donc cette limite en 1610 au niveau de cette baisse des teneurs en CO2. Et puis enfin, dernière solution qui a été proposée, en fait, qui est celle qui a été retenue, c'est de faire commencer l'Anthropocène avec ce que les géologues appellent aujourd'hui la grande accélération. C'est-à-dire, grosso modo, l'année 1950 ou 1952, là où on voit toute une série d'indicateurs qui explosent par rapport à ce qu'elles étaient précédemment. Et notamment ici, par exemple, la consommation d'énergie mondiale, qui, vous voyez, grimpe en flèche à partir à peu près de l'année 1950. Et donc, c'est plutôt cette dernière solution qui a été choisie, de faire commencer si on définit l'Anthropocène, on va le faire commencer en 1950 ou 1952. Mais là encore, le problème, c'est, ok, une fois qu'on a choisi que ça commence au milieu du XXe siècle, quel va être l'indicateur que l'on va chercher dans les sédiments pour représenter ce démarrage? Et là, l'idée qui avait été proposée, là encore, il y en a eu plusieurs, mais là encore, il y en a un qui a été choisi, c'est de prendre pour marqueur les éléments, les atomes produits par les explosions nucléaires, par les essais nucléaires qui ont été faits à l'air libre dans les années 1950. Pour les aider au début des années 50, les Américains et les Soviétiques à l'époque ont fait exploser quelques bombes nucléaires à l'air libre, les Français aussi d'ailleurs, pour voir ce que ça faisait, et sans vraiment se préoccuper du fait que ça pouvait avoir peut-être quelques conséquences sur les populations voisines, et sur les animaux ou les organismes, on s'en fout à l'époque. Et donc ces explosions nucléaires ont produit des éléments radioactifs particuliers, du plutonium par exemple, du césium, qui se sont déposés dans les sédiments, et que l'on peut retrouver dans les sédiments. Alors d'autres ont proposé de chercher les matières plastiques, les microplastiques ou les nanoplastiques. Et puis d'autres ont aussi proposé de chercher, là encore, des résidus de combustion d'hydrocarbures, donc des composés organiques particuliers qui sont issus de la combustion à haute température des hydrocarbures. On a aussi proposé les pesticides, par exemple. Mais en fait, aucune de ces propositions n'a été rejetée formellement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher tout ça. D'accord ? Simplement, on a décidé que c'était quand même les éléments radiogéniques issus des bombes atomiques qui allaient être le principal critère. Mais évidemment, si on trouve les trois ou quatre critères en même temps, c'est encore mieux. D'accord ? Donc finalement, en 2019, c'est-à-dire après 10 ans de réflexion, le groupe de travail sur l'Anthropocène a voté pour dire que oui, ça valait la peine de faire. Ça valait la peine de chercher. D'accord ? Vous voyez qu'il a fallu déjà 10 ans pour qu'ils se mettent d'accord pour dire que ok, on va essayer de définir l'Anthropocène. Alors évidemment, c'est toujours pareil, ces groupes de travail, c'est pas des gens qui travaillent à temps plein sur ce sujet-là. C'est des chercheurs qui font d'autres choses à côté, qui travaillent sur leur propre sujet de recherche à côté, qui se réunissent de temps en temps, donc c'est pas tellement étonnant que ça prenne du temps. Ils turbinent pas là-dessus 24 heures sur 24. Bon, néanmoins, vous voyez qu'il a quand même fallu pas mal de temps. Et donc, ils ont aussi décidé en 2019 que, effectivement, c'était au milieu du 20e siècle qu'ils allaient chercher cette limite. Et donc, ils ont demandé aux chercheurs de leur proposer des sites dans lesquels cet enregistrement serait de bonne qualité. Et donc, on a eu, vous voyez, douze propositions qui vont donc de l'estuaire de San Francisco, d'un banc calcaire en Floride, enfin d'un banc récif en Floride, d'un récif en Australie, les sédiments de la baie de Beppu au Japon, où là effectivement on a quelques chances de trouver des éléments radioactifs, mais aussi un affleurement en plein cœur de Karlsplatz, en plein cœur d'un lac à Vienne, en Autriche. Donc ces 12 affleurements ont été proposés, ont été donc analysés en détail, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un tableau qui avait été publié avec qui comparait justement tous les avantages et inconvénients de ces affleurements, avec donc les attentes. Ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut avoir dans un bon affleurement candidat, et puis des cas qui ne marchent pas ou qui sont pas forcément les mieux placés pour ça sur ce critère-là. Donc il faut des sédiments qui sont quand même suffisamment importants, abondants. Là par exemple, l'estuaire de San Francisco, il y a pas une sédimentation très 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 importante. Il faut une sédimentation continue. Là en plein milieu de Vienne, ça marche pas, surtout que ça a été anthropisé depuis, ça a été justement aménagé. Bon, en gros, lorsqu'on regarde tous ces critères, le site de Vienne, il est éliminé tout de suite. Ça a été le premier éliminé parce que vraiment lui, il allait pas du tout. Enfin, il satisfaisait pas à beaucoup trop de critères, puisqu'il faut pas que ce soit perturbé, il faut qu'il y ait aussi des fossiles à étudier. Alors par contre, vous voyez que tous les sites qui ont été proposés, ils étaient tous analysables par autre chose que juste les fossiles. Donc tous satisfaisaient au moins ce critère-là. On pouvait y faire des analyses des fossiles, mais aussi d'autres éléments, d'autres critères. Mais ils sont pas tous faciles à dater, ils sont pas tous accessibles non plus. Alors encore, quand vous choisissez un affleurement qui est en plein milieu d'une ville, ça va être un peu compliqué pour qu'un géologue vienne faire des prélèvements n'importe quand, n'importe quel moment. Donc forcément, ça c'est pas idéal. Donc avec tous ces critères, on a écrémé les différents affleurements proposés, et on en a rejeté certains. Et on s'est quand même rendu compte aussi que, à force de les étudier, on s'apercevait qu'il y avait des critères qui n'étaient pas forcément aussi bons que ce que l'on pensait. Par exemple, pendant plusieurs années, on a pensé que les microplastiques allaient être de bons indicateurs. On allait pouvoir vraiment les voir apparaître dans les sédiments à partir d'un certain moment, et puis les voir augmenter en concentration. Mais des études ont montré sur certains sites que, en fait, les microplastiques, ils ont tendance à migrer dans les sédiments. Ils ont tendance à changer de place dans les sédiments. Et donc, ils sont pas aussi fiables que ce qu'on avait espéré à un moment donné. à cause de la bioturbation, à cause des perturbations sédimentaires, des micro-séismes, enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que apparemment les microplastiques aussi ont tendance à bouger par rapport à leur dépôt initial. Donc les microplastiques sont intéressants, mais moins intéressants que ce qu'on avait pu espérer à une certaine époque. Donc au final, il y a un site qui a été qui est sorti du lot, qui a été retenu au détriment des 11 autres, c'est ce petit lac au Canada, dans des affleurements, dans des couches calcaires du Canada, donc c'est un lac de dissolution des calcaires, qui remplit une zone de dissolution des calcaires, donc c'est un tout petit lac, vous voyez, dont on fait le tour en quelques minutes, 130 mètres sur 270 mètres, on fait un stade de foot, quoi, qui est assez profond et qui a l'avantage, justement, parce qu'il est profond, que les sédiments, les dernières couches d'eau ne sont jamais mélangées avec les couches supérieures. Elles restent isolées des couches supérieures. Donc c'est ce qu'on appelle un lac méromictique, un lac qui se mélange pas bien, qui se mélange pas du tout même au fond. Et donc les dépôts se font régulièrement et tranquillement au fond du lac. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est un lac de milieu froid dans un environnement calcaire. Et par conséquent, en hiver, il y a de la calcite qui cristallise en été, pardon, il y a de la calcite qui cristallise dans l'eau et qui se dépose au-dessus des couches, au-dessus des sédiments qui sont déposés en hiver, qui eux sont plus riches en matière organique. Et donc vous avez ce qu'on appelle des varves, vous avez des alternances de couches claires et de couches sombres, et un doublet clair-sombre, c'est une année. Donc l'avantage, c'est que quand on fait une carotte dans ces sédiments, dans les sédiments du fond de ce lac, eh bien, on peut compter les doublets, compter les alternances blanches et noires, claires et sombres, et on peut donc dater les différentes couches, sachant que la couche haute, bah, c'est la dernière couche en date. D'accord? C'est l'année du prélèvement, finalement. Donc, on peut comme ça dater toutes les couches, les compter, et les dater une par une. Et en analysant les sédiments, on peut aussi retrouver des indicateurs, des marqueurs dans ces sédiments. Donc on peut voir, par exemple ici, on a trouvé des traces de ce que les Américains ont appelé le Dust Bowl, c'est-à-dire une période de sécheresse au début du XXe siècle. C'est celle qui est notamment décrite dans la perle de John Steinbeck, dans les écrits de John Steinbeck, un épisode qui a appauvri énormément le centre des États-Unis et les populations du centre des États-Unis parce que les cultures ont séché. Donc ça a été une période qui a marqué l'histoire des États-Unis avec notamment des tempêtes de sable dues à l'assèchement des terres agricoles. C'est pour ça qu'on a appelé ça le Dust Bowl, le bol de poussière. Et donc ça, comme on est au Canada, on en a des traces dans cet affleurement, dans cette carotte. Et donc, les auteurs de l'étude, les auteurs de ces carottes, les géologues qui ont analysé ces carottes, ont pu dater précisément, pour retrouver précisément l'année 1952, et ils ont pu également analyser là-dedans les éléments radiogéniques. Donc analyser la présence de certains isotopes radiogéniques et radioactifs, comme le plutonium ou le césium. Donc c'est ce qui est ici, c'est l'enregistrement que vous avez ici, sur ce lac Crawford, qui est comparé ici à trois autres sites qui avaient été proposés également comme stratotype de limite, comme stratotype de l'Anthropocène, et vous voyez que là, l'enregistrement est plus net, plus précis que ce qu'il est sur ces autres carottes, sur ces autres sites. Et donc dans le lac Crawford, on a un enregistrement bien net de cet excès d'éléments radioactifs issus des essais atomiques. C'est ce pic ici d'activité du plutonium qui est enregistré ici. Donc il est très bien replacé dans la carotte. Et donc les chercheurs ont dit là on a l'année 1952 qui peut servir de repère pour l'Anthropocène. Donc ils ont proposé que sur cet affleurement-là, on puisse en faire, que de cet affleurement-là, on puisse faire un GSSP. Alors oui, par contre, bah là, pour le coup, ce sera un peu compliqué de placer un clou d'or là-dedans, parce que le placer au fond du lac, au milieu des sédiments, ce sera pas très très utile. Mais donc, c'est l'affleurement qui avait été proposé au vote à la Commission internationale de stratigraphie. Et donc, en mars 2024, tout début mars, la Commission internationale, enfin la sous-commission pour la stratigraphie du Quaternaire, donc le sous-groupe de la Commission internationale de stratigraphie qui était dédiée à l'étude du Quaternaire, devait voter, enfin a voté pour en faveur ou en défaveur de cet affleurement. Et le résultat a été que sur les votants, 12 sur 16 ont voté contre. Donc, 12 sur 16 ont voté contre et assez rapidement, même quasiment tout de suite, le vote a été contesté. Le vote a été contesté, et c'est là où c'est plus gênant, le vote a été contesté par le président et le vice-président de la sous-commission. Donc le chef et le sous-chef ont contesté le vote. D'accord? Et parmi leurs arguments, ils ont dit que pour eux, déjà le vote avait été fait trop vite, puisque officiellement il y a un délai qui doit être respecté entre le dépôt du site candidat par l'équipe de recherche et le vote, de façon à ce que les membres de la commission aient le temps de réfléchir et de voter en conscience. Alors là, cet argument-là n'est pas vraiment valable parce que apparemment le délai de 30 jours qui était imposé a effectivement été respecté. L'autre argument contre ce vote, qui a posé plus de problèmes, c'est que le président et le vice-président ont dit que le vote en fait n'était pas valable parce que parmi les votants, il y en avait un certain nombre qui n'auraient pas dû voter. Il y a un certain nombre qui en fait étaient là, étaient dans la, appartenaient à la sous-commission depuis trop de temps pour avoir encore, parce que dans les statuts de la Commission internationale de stratigraphie, il est écrit quelque part que les membres des sous-commissions n'ont le droit de voter que s'ils sont dans la sous-commission depuis moins de 10 ans. Alors là, il se trouve que la quasi-totalité du comité était nommée depuis plus de 10 ans. Donc là, il y avait un vice de procédure. D'accord? Là où ça a posé un gros souci, c'est qu'on s'est aperçu que cette situation-là, qui posait problème pour la commission pour la sous-commission de la stratigraphie du Quaternaire, bon, en fait, c'est une situation qui était valable aussi, qui était aussi présente dans plein d'autres sous-commissions de la Commission internationale de stratigraphie. Donc là, les géologues se sont dit, oui, alors là, il va falloir qu'on refasse en fait tout un tas de votes qu'on a fait précédemment. Et donc, plutôt que de refaire comme ça, de repasser sur des votes précédents dans plein de sous-commissions, il a été décidé de porter le problème au niveau supérieur, de demander l'arbitrage de la Société internationale de géologie, de l'IUGS, de façon à ce qu'elle arbitre et à ce qu'elle décide si est-ce qu'on refait le vote ou est-ce qu'on entérine le vote, etc. Et donc, quelques semaines après, le 20 mars, l'IUGS, donc l'International Union of Geological Science, a confirmé le vote de l'ICS. Et donc a dit que, ouais, on va rejeter ce GSSP. Donc vous voyez qu'ils en ont fait tout un laïus. Ça, c'est ce qu'ils ont publié officiellement sur le site de la Commission internationale de stratigraphie, pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont validé ce vote et donc refusé l'Anthropocène. Alors, ils ont quand même bien pris la peine de préciser que, en dépit de ce rejet, en tant qu'unité de l'échelle géologique, de l'échelle des temps géologiques, l'Anthropocène continuera pour autant à être utilisé, non seulement par les sciences de la Terre, mais aussi par les sciences de l'environnement, par les sciences sociales, par les politiciens et les économistes, et par le grand public au sens large. Donc ils n'ont pas dit que ça n'existait pas dans l'absolu. Ils ont dit que ça n'était pas valide et pas intéressant pour la géologie, pour les géologues. D'accord? Et donc ils ont bien précisé que ça restait un descripteur valable de l'impact humain sur le système Terre. Autrement dit, ils ont vraiment insisté sur le fait que c'est pas parce qu'ils rejettent l'anthropocène qu'ils dénient le fait que l'homme a un impact majeur sur son environnement. D'accord ? Mais néanmoins, ils ont donc décidé que l'anthropocène ne ferait pas partie de l'échelle des temps géologiques. Alors, dans le groupe de l'anthropocène, dans le groupe de travail sur l'anthropocène, bah, vous aviez donc 4 personnes qui ont voté pour, et donc les 11 autres qui ont voté contre. Et vous pouvez trouver sur le site du Collège de France, vous avez une conférence par cet historien, justement donc l'un des historiens de ce groupe de travail, qui a fait une conférence, alors en anglais, mais une conférence d'une heure où il explique justement ce que je viens, il reprend ce que je viens de vous expliquer, mais il donne son point de vue. Donc lui, il était favorable à l'anthropocène. Il explique pourquoi est-ce que selon lui, c'est dommage de ne pas avoir reconnu l'anthropocène. Et il insiste sur le fait que, d'après lui, et il n'est pas le seul à dire ça, les activités humaines auront un impact qui sera durable, qui va être marqué pendant un temps long dans les milliers d'années qui viennent. Et donc, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la grande accélération, c'est-à-dire l'augmentation de l'utilisation d'énergie, l'utilisation d'eau, l'utilisation de les quantités de CO2 atmosphériques, tout un tas de critères ont fortement accéléré, fortement augmenté depuis les années 1950. Ça, c'est un événement qui va être très court. On va assez rapidement plus avoir assez de matériaux, on va assez rapidement être obligé de ralentir sur ces changements-là. Mais par contre, les effets de ce nouvel état qui va arriver, eux, ils vont se poursuivre sur une durée très longue. Donc, ce qu'on appelle donc la grande accélération, ça sera sans doute très bref. Ce sera sans doute terminé d'ici 2100. On sera arrivé à un plateau. Mais par contre, le résultat de tout ça, ça va avoir des séquelles très longues. Et pour lui, en tant qu'historien, ce sera suffisamment important pour que ça se voit et que ça mérite d'être une nouvelle division des temps. Donc, la commission, enfin l'IUGS, pardon, je me suis trompé, c'est l'IUGS, pas l'USGS, excusez-moi. Donc l'IUGS a décidé que l'anthropocène n'était pas valable, ce qui fait que le groupe de travail en question, le groupe de travail qui était dévolu à la question, il a disparu, il a été disparu. Et il y a encore 2 semaines, quand je regardais sur le site de la Commission internationale de stratigraphie, les pages du groupe de travail avaient carrément disparu. Il n'y avait plus rien. Et là, il y a 3 jours, quand je suis retourné voir, il y avait une page. C'est-à-dire qu'ils ont fait une page qui fait juste la liste des publications du groupe de travail et qui fait une sorte de résumé de ces donc plus de 10 ans de travail. À part ça, l'anthropocène n'est plus nulle part sur le site de la Commission internationale de stratigraphie. Ça n'existe plus. Donc néanmoins, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que l'anthropocène n'a pas de validité, mais c'est pour les géologues, d'après l'IUGS, ça n'a pas d'utilité, ça ne sert pas, ça n'est pas intéressant pour le géologue. D'autant plus que c'est devenu un terme qui est assez fourre-tout, assez confus, et donc là encore, ça ne concerne plus vraiment ça ne concerne pas que la géologie. Alors là encore, les historiens comme John McNeill que je viens de vous montrer là, contestent cette approche-là et disent que donc pour eux, les effets des activités humaines seront suffisamment durables pour que ça justifie d'en faire une période géologique, donc pour lui donner ce qu'on appelle en histoire un chrononyme. Hein, c'est comme la révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle un chrononyme. L'optimum médiéval, c'est aussi un chrononyme, c'est donc un nom donné à une période de temps. D'accord ? L'Empire napoléonien, c'est aussi un chrononyme, etc. Donc pour les historiens, ça vaudrait la peine de créer un chrononyme. Et puis, donc comme je l'ai dit, il y a aussi maintenant des géologues qui essayent de modéliser ou d'estimer le pendant combien de temps l'activité humaine va laisser des traces dans les sédiments ou dans les enregistrements géologiques. Et pour eux, dans les hypothèses les plus pessimistes suggèrent que l'impact humain pourrait se ressentir sur des milliers d'années, voire même des millions d'années. Donc l'idée que ça vaut pas la peine de faire un anthropocène parce que ce sera vraiment quelque chose de très court, c'est juste une crise, cette idée-là, elle est contestée. D'accord ? Parce que ça a été aussi proposé de dire que l'anthropocène, ça va être très très bref à l'échelle des temps géologiques et ce sera juste une crise, comme la crise Crétacé-Tertiaire, par exemple. D'accord ? Et puis également, plus fondamentalement, un certain nombre de scientifiques disent que c'est bien joli de dire que l'anthropocène ne sert pas aux géologues, mais c'est pas parce que l'anthropocène a des connotations politiques, des connotations qui sont pas seulement scientifiques, que ça justifie de le rejeter. Ils disent que un concept scientifique, c'est jamais quelque chose qui est vraiment politiquement neutre. D'accord ? Quand Darwin a proposé la théorie de l'évolution, ça a eu des répercussions politiques, ça continue à en avoir. D'accord ? Vous avez toujours un bonhomme avec des cheveux orange qui refuse cette idée-là. Pareil, quand Galilée explique que la Terre tourne autour du Soleil, ça a eu des conséquences politiques. Ça lui a même valu un procès, etc. Donc c'est pas parce que l'anthropocène n'est pas seulement un concept scientifique qu'il faut le supprimer, qu'il faut le refuser. Donc actuellement, on pense que l'anthropocène, malheureusement, ça va être cet impact humain va être durable, va avoir des conséquences à long terme. Et donc évidemment, ça reste une idée intéressante, un concept intéressant, parce qu'il faut qu'on s'en occupe. Finalement, il faut qu'on prenne en compte ces influences humaines et qu'on essaye au moins sinon d'y remédier, mais au moins de s'y adapter. Il faut qu'on essaye de voir si on peut pas modérer cette grande accélération, cette débauche d'utilisation d'énergie, de ciment, d'eau, etc. Et puis, il faut qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut s'adapter à l'état suivant, à ce nouvel état du monde qui arrive. Donc autrement dit, il faut qu'on essaye d'être un peu prospectif et de se préparer à ce nouvel état et de pas se comporter en ce qu'un auteur de science-fiction avait appelé un troupeau aveugle dans les années 70. Dans les années 1970, vous aviez déjà un auteur britannique de science-fiction qui avait imaginé dans un roman toutes les conséquences possibles de ce qu'on pouvait comprendre à l'époque de l'augmentation de la pollution, des guerres, des conflits atomiques qui étaient à l'époque d'actualité. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà un moment qu'on aurait pu s'en occuper. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup Cyril. Alors il y a des questions dans le chat, est-ce que vous êtes déjà dans la salle? Quand je commence par les questions du chat, il faut juste les répéter si jamais on ne m'entend pas. C'est dans le Cambrien zone avec des étages sans nom, comment, pourquoi a-t-on défini qu'il devait en avoir deux ou trois? Pourquoi il y en a deux ou trois?
Alors je ne saurais pas exactement, je pense que c'est lié au fait qu'il y avait déjà eu des propositions avant de stratotypes d'unité qui ont été invalidées ensuite. On a considéré que les stratotypes d'unité n'étaient vraiment pas assez précis et qu'on les a carrément invalidés, mais qu'on ne les a pas remplacés par autre chose.
Dans la salle, il y a des questions. Gaëtan ?
Une question, c'était sur l'enregistrement justement des essais nucléaires. Pourquoi pas dès 1944 et 1945, c'est passé à Hiroshima et les États-Unis ?
La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le 1944-1945, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki comme repère? Je pense que c'est tout simplement parce que c'était à l'époque des petites bombes. Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est que on était passé en 1950, on avait dû déjà passer à la bombe H. Et donc, c'était déjà nettement plus important. Alors non, en fait, c'est pas vraiment un critère. L'idée, c'est de dire que l'énergie, donc l'énergie, c'est un des, c'est pas un critère pour définir l'anthropocène, pour définir l'anthropocène dans les sédiments. C'est juste un des indicateurs de ce qu'on appelle donc cette grande accélération, c'est-à-dire cette augmentation drastique des activités humaines on a en fait toute une série d'indicateurs qui ont été étudiés et qui montrent tous finalement une accélération vers les années 50, ou un petit peu avant ou un petit peu après, une accélération qui fait vraiment une inflexion très nette. Donc là, c'était l'énergie, mais vous avez donc sur le site de l'IGPP, vous avez un site qui référence tout ça, où on a par exemple la construction de grands barrages, on a la consommation d'eau, on a la consommation d'engrais, la consommation de, enfin l'utilisation de, bah, les taux de CO2, l'acidification des océans. On a comme ça toute une série de critères pour lesquels les données indiquent que à partir des années à peu près du milieu du XXe siècle, on a vraiment un changement de courbe. Enfin, la courbe augmente vraiment brutalement. Et là, on a vraiment une expansion de toutes ces traces d'activité humaine. D'accord.
Une question dans le chat. Est-ce que l'abandon de la recherche du stratotype est définitif?
Alors ça, c'est toute la. Donc, est-ce que l'abandon est définitif? Ça, c'est toute la question. Bah, les pro-anthropocènes du groupe de travail disent qu'ils vont quand même continuer à diffuser l'idée que l'anthropocène, c'est quand même une idée intéressante. Mais étant donné que là, ça a été tranché par la plus haute institution géologique internationale, on voit pas comment ça pourrait être remis en cause.
Et la même collègue demande, est-ce qu'on sait pourquoi les votes ont été négatifs?
Alors non, les votes ont été, les votes sont secrets, donc il n'y a pas eu de, on ne sait pas vraiment, sauf justement quand on a des conférences par des gens qui ont participé directement. Donc John McNeil, lui, il dit que donc pour lui, il a voté pour parce que en tant qu'historien, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important ça aura des conséquences, donc ça vaut la peine de le faire. Je pense que les arguments des contre, c'était un peu ce que j'ai dit, c'est le fait que pour certains, c'est pas suffisamment important pour que ce soit enregistré sur des temps, enfin de façon suffisamment longue dans les sédiments. Pour d'autres, ça oblige à remanier des travaux précédents. Je pense qu'il y a sans doute plusieurs critères qui ont conduit à ces résultats-là.
Il y a d'autres questions dans la salle, si vous voulez bien, oui.
L'idée de définir une subdivision stratigraphe qui serait définie sur l'impact des activités humaines.
Ouais.
Je comprends le débat, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi quelque chose d'aussi gros qu'une époque? Pourquoi pas juste une subdivision l'Holocène, par exemple?
Oui, mais justement, ça fait aussi partie des questions qui, effectivement, ça fait aussi partie des objections qu'ont pu avoir certains géologues ou certains stratigraphes, de dire est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arrêter l'Holocène pour en faire une subdivision de même niveau, ou est-ce qu'on pourrait pas en faire juste un étage de l'Holocène? Et effectivement, là encore, c'est une question de quelle importance on donne à ces activités humaines. Est-ce qu'on considère que c'est suffisamment important et suffisamment que ce sera suffisamment bien enregistré dans les sédiments pour que ce qu'on considère que c'est l'équivalent de la division entre l'Holocène et le Pléistocène, ou entre le Crétacé supérieur et le Crétacé inférieur? Cette question est posée, mais disons que là, ils sont justement, c'est au bout des 10 ans, entre 2009 et 2019, le groupe de travail sur l'Anthropocène a considéré que ça valait la peine de le considérer comme une division du niveau de l'Holocène.
Qu'est-ce qui fait en termes de mal que
ça, etc. Normalement, justement, c'est l'intensité de la rupture entre un étage et le suivant, ou entre une division et la suivante. Quand on a des extinctions de masse, on en fait une division entre R. On passe de l'R primaire à l'R secondaire, ou une division entre niveaux supérieurs. Quand on passe du Crétacé au Tertiaire, quand on passe du Jurassique au Crétacé, du Trias au Jurassique, à chaque fois, c'est marqué par des extinctions majeures. Donc là aussi, là encore, certains ont dit, oui, mais si on prend en compte aussi dans les activités, dans les impacts humains, la sixième extinction qui apparemment est en cours, ça vaut la peine d'en faire une division importante. Donc voilà, et c'est pour ça que par contre, que pour les divisions de l'Holocène, je vous ai dit qu'en 2018, on a choisi trois divisions de l'Holocène, et là justement, comme les ruptures, enfin les limites, ce sont juste des événements climatiques qui ont eu une certaine importance, mais qui ont apparemment pas provoqué des extinctions, qui n'ont pas été si forts que ça, on n'en fait que des divisions d'étages. D'accord?
Tu en as parlé tout à l'instant, c'est quelque chose qui va la distinction entre le Jurassique et le Crétacé, il n'y a toujours pas de couleur, il n'y a pas de site.
Je ne sais plus. Sur le Jurassique Crétacé, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de couleur. Hein, c'est genre tout, ce que j'ai mis dans l'avant. Il manque encore toujours des clous d'or. Hein. C'est clair que effectivement, là, Jurassique Crétacé. Alors si, il y a un clou d'or pour le premier étage du Jurassique, mais par contre, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de clou d'or pour les derniers étages du Trias. D'accord. C'est en fait le Trias, il manque encore au moins deux clous d'or. Un ici, un pour le Rétien et un pour le Norien. Là, il a pas de clou d'or. Par contre, il y en a un pour l'étangien, donc pour le premier étage du Jurassique.
Moi, j'avais une dernière question avant qu'on passe à la conférence suivante. Et justement, tu en as parlé, tu as parlé de sixième extinction. Mmh. Il y a quelques jours, avec une étudiante, on se posait une question en disant, est-ce que c'est aussi un concept médiatique, scientifique? Est-ce que c'est soumis aux mêmes critiques que l'anthropocène? Est-ce qu'on peut l'utiliser?
Alors, je dirais que ça, je pense que c'est un peu en évolution, cette idée-là. Mais John McLean, justement, dans sa conférence au Collège de France, lui, il le met comme critère. Pour lui, c'est un critère, et on a quand même de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a vraiment un effondrement de la diversité, surtout, alors évidemment, on le voit sur certains groupes, parce que c'est ceux qu'on étudie, mais il semblerait quand même qu'il y ait un effondrement de diversité de plein de groupes différents, et donc ça devient un concept de plus en plus solide du point de vue scientifique.
Très bien. Merci beaucoup, Cyril, encore une fois, pour cette conférence.